Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Voici le temps béni de l'année où nous réfléchissons aux livres que nous emporterons avec nous cet été pour profiter de ces moments plus ou moins calmes qui nous permettent de prendre un bon bouquin. Cette semaine, je vous propose un remarquable ouvrage dont le titre résonne déjà dans notre esprit car nous savons ici vers quel monde certains veulent nous mener. Distinguer et préparer le combat, telle est notre vocation. Toute lutte ne se fait pas uniquement ou forcément par les armes, il faut voir clair pour agir juste. Nous parlerons donc du dernier livre de Jean-Frédéric Poisson, « La dictature du bien » aux éditions du Verbe Haut. Une petite demi-heure pour évoquer une dérive où l'appareil d'État et l'ordre juridique redéfinissent nos libertés sans le consentement des peuples qu'ils sont censés servir. Bonjour monsieur le député, bonjour Jean-Frédéric. Merci infiniment de votre présence parmi nous. Vous avez été maire de Rambouillet de 2004 à 2007 et député de la 10e circonscription des Yvelines. Depuis 2013, vous êtes élu président du Parti chrétien démocrate fondé par Christine Boutin. Et à ce titre, vous vous étiez présenté à la primaire de la droite de 2016. C'est là que le grand public vous découvre, même si à mon avis, votre plus belle prestation fut votre discours à l'Assemblée nationale le 29 janvier 2013. Je ne sais pas si vous avez mesuré combien votre intervention a marqué les esprits. Cela avait été un souffle pour nous qui étions au front. Se sentir ainsi défendu, accompagné au sein des institutions avait été un support important, même si nous connaissions l'issue du vote en faveur du mariage pour tous. Alors je me permets de dire ici, puisque tous mes invités sont pétris par leur foi, que vous vous êtes converti au catholicisme en plein cours de philosophie. Vous dites ce jour-là, ni apparition, ni illumination, j'ai juste eu la conviction d'être aimé de Dieu, j'ai éprouvé une grande sérénité. C'est donc cette foi qui vous habite et qui vous mène toujours à vouloir changer les choses. Je vous en remercie au nom de tous ceux qui savent qu'il nous faut des héros à UT. Parlons donc à présent de votre livre, La dictature du bien. Alors, dès le premier chapitre, vous évoquez la démocrature, néologisme cher à Max Niedinger-Gumaz. Alors, afin d'asseoir la suite de notre échange, il me semble important que nous nous appuyions sur sa définition. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter ce type de régime ?
Bonjour, chère France, et bonjour à tous nos auditeurs. Merci de votre accueil. Démocrature, c'est un mot pratique parce qu'il suffit d'entendre pour comprendre, entrevoir en tout cas ce que c'est. Oui. C'est-à-dire un mélange de démocratie, c'est le début du mot, et de dictature, c'en est la fin. Qu'est-ce que c'est la démocrature ? C'est une notion qui a été, comme vous l'avez signalé, élaboré par un sociologue suisse dont vous avez cité le nom, Max Niedinger-Gumaz, dans les années 80. Et c'était un grand spécialiste, ce monsieur, des régimes africains,
oui.
Et en particulier de l'Afrique équatoriale. Et donc il a regardé fonctionner ces régimes politiques, et puis en fait il s'est rendu compte qu'ils avaient un certain nombre de points communs qui pouvaient contribuer à dire ce qu'est une démocrature. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'apparence de la démocratie, c'est-à-dire un fonctionnement institutionnel habituel, des élections, un parlement, un conseil constitutionnel ou son équivalent, la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, tout ce que vous voulez, enfin toutes les choses auxquelles nous sommes habitués, dans lesquelles nous avons été élevés, mais tout ça sous la forme simplement d'une forme de théâtre d'ombre, d'une forme d'apparence, puisque la réalité du pouvoir se joue ailleurs, ce pouvoir est la plupart du temps confisqué par une petite oligarchie qui s'en sert à ses propres fins et pour ses propres intérêts, et qui laisse subsister l'apparence de la vie institutionnelle pour en fait ne faire que renforcer sa propre position. Donc la démocratie, la démocrature, c'est l'apparence de la démocratie dans un régime qui est en fait autoritaire, plus ou moins violent selon les cas à l'égard du peuple, mais qui ne vise qu'à préserver les intérêts d'un petit nombre qui gouverne.
Alors vous évoquez aussi la normalisation de l'illégalité et de l'arbitraire. Je pense au 29 mai 2005, le fameux traité établissant une constitution pour l'Europe. Ce fameux référendum pour lequel les Français ont été appelés aux urnes et où le vote fut sans appel, un non massif. Je rappelle la question, approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? Donc non massif avec 54,67% des voix et pourtant.
Mais oui, ça a été probablement un des tournants les plus marquants de notre histoire politique récente, ce référendum. Même si par ailleurs, on peut expliquer les raisons pour lesquelles 3 ans plus tard, le président Sarkozy a sollicité le Congrès pour obtenir une décision un peu différente. Il y a des
Oui.
raisons à cela, je ne les partage pas, mais enfin, les responsables politiques s'en expliquent, et notamment l'argument consiste à dire que les Français avaient désigné comme les trois candidats arrivés premiers, les trois premiers au premier tour de l'élection présidentielle de 2007, c'est-à-dire dans l'ordre Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et François Bayrou, qui représentaient à eux trois quelque chose comme près de 70% de l'électorat.
Oui.
C'était tous les trois engagés à faire ratifier le traité de Lisbonne s'ils étaient
Oui.
élus chef d'État. Donc, il y a une espèce de malentendu terrible, un irrespect total de la volonté populaire, effectivement, qui a, je crois, cassé le lien de confiance qui devrait exister entre un peuple et ses dirigeants. Et effectivement, cet affront, ce mépris de la souveraineté populaire, de principe que nous avons vécu en 2008 après la ratification du traité européen, s'accompagne maintenant de choses qui sont beaucoup plus prosaïques, mais non moins spectaculaires. Par exemple, c'est ce qui me vient en tête, le secrétaire général de l'Élysée qui est convoqué par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale et qui ne défère pas la convocation, il ne lui arrive rien.
Oui.
Alors que les textes sont très précis, dans ces cas-là, il y a 7 500 euros d'amende avec une peine éventuellement de prison. Le président peut aller le faire chercher par la police, il n'en fait rien. Ou alors, comment passer sous silence les, je crois, 17, 18, 20, 22, 23, je ne sais plus combien, ministres ou anciens ministres d'Emmanuel Macron qui ont été inquiétés pour des raisons de fausses déclarations de patrimoine, conflits d'intérêts, collusion avec je ne sais pas quoi, etc. Donc petit à petit, dans nos pays s'installe cette idée qu'il y a une caste qui est à l'abri de tout, qui, elle, peut se permettre d'agir dans l'illégalité, alors que malheur pour vous si vous dépassez la vitesse limitée de 3 km/h devant un radar, parce que là, pour le coup, on ne manquera pas de vous
Oui.
rattraper, de vous payer la note.
C'est quand même étonnant de voir que personne ne s'insurge. En fait, nous, dans notre coin, on s'en rend bien compte, mais on a l'impression que nous sommes finalement très peu nombreux.
Il y a des tas de gens qui s'insurgent, qui se mettent en colère une fois qu'ils sont rentrés chez eux, dans leur salle de
C'est
bain, en
ça.
écoutant les informations ou en se couchant le soir. Mais le problème, c'est que cette colère ne se transforme pas en acte électoral. C'est-à-dire que les conséquences sur le plan du choix politique des dirigeants ne sont pas tirées. Par exemple, le fait que Mme von der Leyen soit convaincue, alors elle n'a pas encore été condamnée, mais enfin l'affaire de la corruption des vaccins Pfizer est quand même
Oui,
maintenant
connu.
établie de manière connue. Qu'un certain nombre de responsables politiques français aient fait savoir, avant même d'être élus, qu'ils la soutiendraient pour être réélus à la présidence de la Commission, aurait dû conduire les Français à ne pas voter pour ces candidats aux élections européennes. En toute cohérence, enfin, si effectivement ils étaient effrayés, comme ils le disent spontanément, par cette perspective, eh bien ils devraient en tirer des conséquences sur le plan électoral, et ils ne le font pas.
Oui.
Voilà, donc une des questions qui nous est posée à nous, responsables politiques,
Oui, oui,
dissidents,
oui.
en tout cas.
C'est un petit peu comme les médias, on sait parfaitement leur puissance, on en a conscience. Mais enfin, comment expliquez-vous que tant et tant de personnes s'y réfèrent toujours? Alors, est-ce que c'est générationnel? Est-ce de l'apathie, sans jeu de mots, politique? Ou alors, est-ce que c'est une anesthésie sociale?
Je pense que là, je suis très partagé sur cette question parce que, à la fois, il est clair que les médias dits mainstream, j'aime pas
Oui.
cette expression parce que on sait pas très bien ce que ça veut dire.
Oui, mais
Enfin,
enfin, on voit ce que...
il y a beaucoup de posts sur le réseau X qui sont infiniment plus vus que n'importe quel article d'un grand journal de la presse écrite. Hein. On a un peu renversé les quantités pour le coup. Mais je pense que nous sommes dans un pays, malgré tout, où si vous voulez être informé, il faut écouter les humoristes, et si vous voulez rire, il faut écouter les informations. C'est ça comment dire, le schéma maintenant.
Oui.
On sait bien que si vous voulez être informé en vérité, il y a des choses qu'il ne faut pas perdre votre temps à lire ou à regarder, parce que ce n'est pas là que vous trouverez. Donc je pense que les gens le savent,
Oui,
les
parce qu'est le
politiques
succès des médias
d'audience.
alternatifs.
Oui, c'est pour exactement, et qui grâce à vous, Radio Courtoisie et d'autres, rassemble des centaines et des centaines et des millions de personnes toutes les semaines qui vont chercher une information là où ils
Oui.
pensent pouvoir la trouver. Et ça fait partie de cette séparation, en réalité, de cette fracturation de la société qui met d'un côté le peuple qui essaie de vivre comme il peut, qui pense, de moins en moins d'ailleurs, ou de moins en moins fermement, qu'il vit toujours dans un système dans lequel sa voix a du poids, sa souveraineté existe pour de vrai, qu'il peut l'exprimer par le biais des élections, d'un côté, puis d'un autre côté, une caste dirigeante qui le tient à bout de gaffe le plus loin possible
Oui.
et le plus longtemps possible.
Nous allons faire une petite pause et nous nous retrouvons juste après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, vous nous présentez la façon dont en Chine a été mis en place le crédit social en vous référant au confucianisme. Est-ce que cela veut dire que cela marche mieux en Chine parce que justement les Chinois puisent leur philosophie dans le confucianisme, ce qui voudrait dire que nous, Gaulois, avons des chances de rester rebelles à ça?
J'aimerais que ça soit vrai. Mais le crédit social chinois, c'est une sorte de permis de conduire politique à point.
Oui.
C'est-à-dire que chacun des citoyens chinois, là où c'est mis en place, ça n'est pas partout sur le territoire chinois, mais là où c'est mis en place, les gens disposent d'un crédit. Quand ils font des bonnes actions, ils perdent des points, et quand ils font des bonnes, ils en gagnent. C'est le crédit revolving, comme quand vous vous adressez à votre banque pour ou le permis de conduire. C'est typiquement le même schéma que le permis de conduire en France. Et donc, ce schéma est en fait fondé sur l'idée que l'individu doit se fondre dans une masse. Ça, c'est le propre des philosophies asiatiques. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu commun au bouddhisme, au taoïsme et au shintoïsme, enfin, toutes les grandes religions de cette partie-là de l'Asie, en tout cas, où la personne humaine comme individu n'a finalement pas tant d'importance que ça, pour ne pas dire qu'elle n'a pas d'importance du tout, qu'elle n'a vocation que de s'inscrire dans une espèce de grand tout de manière harmonieuse et, comment dire, le Parti communiste chinois en Chine a réalisé cette harmonie politique, du moins le croit-il, et pour la renforcer, il a voulu s'assurer d'avoir en face de lui des citoyens dits de confiance à qui il pourrait conférer des droits en fonction de leur comportement. Alors nous vivons sous un régime de droit inconditionnel, c'est-à-dire que nous naissons libres et égaux en droit, dit le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui veut dire qu'à notre naissance est attaché, ou à nous est attaché du fait de notre naissance, un certain nombre de droits et de libertés que personne ne peut remettre en cause, qui sont garantis par les textes, par un tas de choses. Le crédit social chinois, c'est un régime de liberté conditionnelle, c'est-à-dire que rien ne vous est acquis et vous devez sans cesse faire la preuve de suffisamment de vertu pour avoir le droit d'exercer pleinement les libertés qui vous sont accordées. C'est donc un autre monde qui n'est rendu possible que parce que la surveillance technologique a produit des choses absolument merveilleuses, mais aussi absolument terribles, un peu comme la langue des opes, hein, la meilleure et la pire des choses. Et donc, vous êtes surveillé, accompagné, observé au microscope dans tous les actes de votre vie quotidienne, depuis vos choix alimentaires jusqu'aux livres que vous achetez dans les librairies, oui, les lieux dans lesquels vous vous rendez, les gens à qui vous rendez visite, ce que vous dites sur les réseaux, etc. Tout ça est scruté et vous donne une appréciation et le pouvoir décide si vous êtes digne de confiance ou non. Et en fonction de ça, eh bien, vous pouvez trouver un emploi dans la fonction publique ou pas, vous déplacer à l'étranger, obtenir un visa ou non, réserver une chambre dans un bel hôtel pour partir en week-end ou pas, accéder à un certain nombre de lieux de loisirs ou non, etc. Enfin, tout ça est complètement conditionné, quantifié. Et un système dans lequel la technologie domine tout.
Oui.
Alors, pour que le marché fonctionne correctement.
Oui, c'est ça. Donc les Chinois y consentent. Nous, Gaulois, est-ce que nous serions prêts à accepter ça?
Les Chinois y consentent, je ne sais pas. Les reportages sur lesquels j'ai travaillé, les textes que j'ai lus disent que, ils sont conscients du fait que ce n'est pas terrible, mais enfin, ils sont contents. Est-ce qu'ils y consentent? Je n'irai pas jusque-là.
D'accord, oui.
Pour résister, il faudrait que nous retrouvions nos racines philosophiques anciennes. Quel est le remède à ça? Évidemment, l'exercice plein et entier de la liberté individuelle, mais comment cet exercice est-il possible? Il ne l'est que si les corps intermédiaires sont reconstitués, c'est-à-dire si, en face de nous, de chacun de nous, individuellement pris, nous n'avons pas l'État tout-puissant, parce que si nous sommes en face de l'État tout-puissant, nous ne pouvons rien. Et c'est la raison pour laquelle la pensée sociale chrétienne a inventé ou à élaborer petit à petit, pour être plus précis. C'était déjà dans la philosophie grecque d'Aristote, par ailleurs, mais enfin, le christianisme l'a considérablement développé, cette notion de corps intermédiaire, des groupes humains dans lesquels, à la fois, l'individu peut trouver son épanouissement parce qu'ils sont collectifs et donc pas seulement individuels, et d'une taille suffisamment importante pour qu'à la fois, on y puisse mener une œuvre à caractère collectif, mais pas suffisamment grand, pas trop grand, pour éviter qu'on s'y perde. Donc ces groupes à taille humaine que sont les associations, les familles, les entreprises, les territoires, Tout ça mérite de l'oxygène, de la liberté, des moyens. Et c'est exactement ces corps intermédiaires qui ont été étouffés par le macronisme depuis maintenant 10 ans. Alors, ils avaient déjà pris des coups.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça ne date pas de Macron.
Voilà, mais M. Macron en a fait un axe de campagne prioritaire d'une certaine manière. D'ailleurs, ses porte-plumes l'ont écrit de manière formelle dès le début de son premier quinquennat.
Alors, les premiers lanceurs d'alerte ou visionnaires, on l'oublie souvent, nous avaient prévenu il y a bien longtemps, non par des tweets ou des podcasts, mais dans leurs écrits. Je laisserai nos auditeurs se replonger dans Tocqueville, fort intéressant bien sûr. Mais une remarque néanmoins, vous soulignez combien il redoutait la tyrannie de la majorité. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui, si vous le permettez, parce qu'actuellement, nous subissons davantage la tyrannie de la minorité. En cela, vous penserez comme moi ou vous mourrez d'actualité.
Oui, vous avez raison. Si je pense que Tocqueville pourrait vous répondre que la tyrannie de la minorité est possible, d'abord grâce à la complicité d'un certain nombre de démocrates, c'est une citation d'ailleurs que je produis dans mon livre, et deuxièmement parce que la majorité laisse faire. Parce qu'en réalité, on se rend compte que partout nous avons des ennuis avec les wokistes, les fascistes, j'entends les vrais fascistes, c'est-à-dire l'extrême gauche.
Oui.
Et un certain nombre de gens comme ça, c'est parce que on n'est pas capable, quand vous avez deux ou trois, pardonnez-moi chers France, deux ou trois emmerdeurs dans une rame de métro, si 30 personnes se levaient d'un coup pour les mettre dehors, on ne serait plus ennuyé du tout. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, tout ça s'installe parce que cette majorité qui devrait manifester son autorité, pourquoi pas de manière de temps en temps un peu énergique, en fait, ne le fait pas. Donc la logique majoritaire, quand elle est à l'œuvre, elle devient tyrannique. Quelle soit la majorité exprimée par une minorité de manière, peut-être illégitime, ou en tout cas un peu paradoxale, ou par une majorité qui a pour elle la force du nombre. C'est la même logique, si vous voulez. C'est un discours qui s'impose et qui rend impossible les autres discours, ceux qui ne sont pas dans la même ligne, ceux qui ne sont pas inspirés par les mêmes principes, ou qui ne vont pas vers les mêmes objectifs. C'est ça que décrit Tocqueville. Que ce soit la minorité ou la majorité, même si je pense que vous avez raison aujourd'hui, au fond, la logique est la même. C'est celle du fait d'imposer à un groupe humain, de manière autoritaire, des convictions qu'il n'a pas envie de partager.
C'est ça. Alors, la fabrication du consentement. Lippmann a créé le nom, Bernays en a créé le mode d'emploi, le marketing, on pourrait dire, hein, et Chomsky a créé le réveil. On rajoute Ellul, qui a étudié tout ça. Passionnant, cette partie de votre livre. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs cette fabrication du consentement ? Avec une anecdote qui m'a amusée avec Bernays et les cigarettiers et les œufs au bacon.
Ah oui, ça, c'est
incroyable.
C'est enseigné dans toutes les écoles de communication désormais.
Oui.
Et il en a fait d'autres. Hein. Je pourrais aussi parler de la manière dont il a promu une marque de savonnette en invitant les femmes au foyer à faire des sculptures sur savon et organiser des expositions pour donner des prix. Enfin,
ah oui.
Cet homme était un vrai talent pour le coup.
Alors, pour les cigarettiers, pour expliquer à nos auditeurs,
et les œufs au bacon. Un publicitaire, c'est l'inventeur des relations publiques. Et il a participé à la très vaste opération de propagande menée par le gouvernement américain au cœur de la Première Guerre mondiale pour faire en sorte que le peuple américain accepte l'idée qu'il fallait entrer en guerre, même si le président Wilson avait été réélu un an avant en disant qu'il n'entrerait pas en guerre.
Bon, tiens, on connaît ça.
Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, le président américain monte une commission, je passe les détails, vous trouverez tout ça dans mon petit bouquin. Et dans cette commission, il y a Bernays, qui est donc une commission de propagande qui est chargée d'informer le monde dans le monde entier. 9 agences à l'étranger, je ne sais pas combien de centaines de milliers de pages, de lignes, de films, d'émissions de radio, etc. Et ce Bernays en question, après la guerre, est recruté par des cigarettiers, il me semble que c'était Philip Morris déjà à l'époque, pour faire en sorte qu'on accroisse le marché des fumeurs. Et à l'époque, seuls les hommes fument.
Oui.
Donc la meilleure manière d'accroître le marché du nombre de fumeurs, bah, c'est de faire en sorte que les femmes se mettent à fumer. Et donc, M. Bernays va inviter les dames à le jour des manifestations, par exemple dans les défilés, dans les fêtes d'école, etc. Il va en mettre en scène, il va les mettre en tête des cortèges avec des cigarettes à la main, parce que la cigarette, c'est le signe de l'émancipation, le signe de la liberté, le signe de tout ça. C'est l'époque des suffragettes, hein, l'entre-deux-guerres. Donc, l'époque du début de l'émancipation sociale. les politiques des femmes, et donc il va se servir de ça pour faire en sorte de vendre davantage de cigarettes.
Quant aux oligopoles,
les producteurs de viande porcine qui sont confrontés à une énorme surproduction, comme beaucoup d'ailleurs de marchés américains après la Première Guerre mondiale, enfin dans les années 20, vont l'appeler et pour vendre du porc, il va faire courir, avec l'appui de je ne sais pas combien de centaines de médecins dans tout le pays, cette idée que c'est excellent pour la santé de manger de la viande de porc au matin, et donc le matin au petit déjeuner, et donc est né ainsi la tradition des œufs au bacon comme le déjeuner phare américain. Donc il en a fait comme ça des dizaines et des dizaines. Oui. Un personnage très peu connu, consacré par le Time Magazine, qui est le grand magazine hebdomadaire américain démocrate, comme une des personnes les plus influentes, une des 100 personnes les plus influentes du XXe siècle aux États-Unis. Donc c'est quand même pas...
Je pense qu'il est peut-être même dans le top 10, parce que finalement, il apprend aux gens à ne plus penser, à se laisser berner, à consentir d'écouter ce qui nous est dit. Et puis, finalement, il a changé quand même la face de la démocratie.
Ah oui, ça, c'est très juste. De deux manières. D'abord, il a, comme vous dites, inventé la publicité de masse et la manipulation de masse de l'opinion. Et deuxièmement, il a théorisé l'idée que, de toute façon, non seulement on ne pouvait pas faire sans, mais que cette manipulation qu'il a expérimentée, mise en place en temps de guerre, en temps de guerre, on sait bien, la première victime, c'est la vérité, ça ne fait pas nombre d'un doute, il a été le premier à dire, dans le cœur des années 20, qu'il fallait étendre cette capacité d'orienter le comportement et les opinions des foules, étendre autant de paix parce que les gouvernants en avaient besoin, et de toute façon, il ne fallait pas s'illusionner sur le fait que, finalement, comme le peuple fait grosso modo ce qu'on lui suggère de faire, il ne fallait pas hésiter à s'en servir. Donc à la fois, sur l'invention de l'outil et sa propagation, son extension dans la vie normale des sociétés, c'est une forme de mauvais précurseur. Alors qu'auparavant, la propagande, envisagée comme le fait de mentir sciemment au peuple, était plutôt organisée, simplement en temps de guerre, elle avait été inventée pour ça, trouvée pour ça. Et là, cette extension en temps de paix, le fait que ça devienne un outil habituel, quotidien, normal des gouvernements, même en temps de paix, est une vraie nouveauté intellectuelle, en tout cas, oui, qui surgit après la Première Guerre mondiale, sous la plume de Bernays et de Lippmann, que vous avez rapidement cité tout à l'heure.
Alors, nous allons conclure à présent sur cette dictature du bien. Alors, nous avons abordé quelques points. Le temps passe très vite, mais cela permettra à nos auditeurs de découvrir le reste, hein, qui est si passionnant. Nous n'avons pas défloré ces sujets comme le néolibéralisme. Alors, cette dictature du bien s'appuie sur le mensonge, les sentiments. Je finis par détester ce mot magnifique de bienveillance, dégoulinant d'hypocrisie. Donc, pour terminer, puisque vous êtes philosophe, Jean-Frédéric, nous allons nous appuyer sur Rousseau. Alors, quiconque refuse d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre. Alors, est-ce qu'il existe une forme idéale de société ?
Non.
Alors, vous avez un peu plus de temps quand même.
C'est bien ça la difficulté, c'est que s'engager dans la vie politique, c'est accepter l'idée que le monde est imparfait, qu'il le restera. S'il y avait une cité idéale, ma foi, il suffirait de comprendre comment elle fonctionne et puis de la mettre en place. Et on sait très bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça. D'ailleurs, c'est le propre des utopies ou des idéologies de considérer qu'il y aurait quelque chose qui serait un schéma parfait, qui suffirait d'appliquer.
C'est pourtant ce qu'espère celui qui vote en écoutant les hommes politiques.
Oui, alors il est un peu imprudent s'il espère ça, parce que le plus raisonnable qu'il puisse espérer, c'est que la manière dont les affaires seront conduites corresponde le mieux possible à ses aspirations et à ses intentions.
Bien sûr.
Mais d'ailleurs, vous ne trouvez pas dans l'Évangile, à aucun moment, ni dans la pensée sociale chrétienne, de programme politique, et pour cause. C'est parce qu'on sait bien que le but de la politique, c'est de faire en sorte que, c'est le bien commun, c'est de faire en sorte de trouver les circonstances dans lesquelles on peut facilement devenir heureux. Mais ces circonstances changent en fonction du temps, des lieux, des besoins des peuples, de leur état, de ce qu'ils sont prêts à supporter, de ce qu'ils veulent. Tout ça est très contingent, comme dans une famille ou dans n'importe quel groupe humain. Donc non, il n'y a pas de société idéale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la société qui repose sur le mensonge, la manipulation, la coercition et le fait d'imposer une doctrine que les peuples ne veulent pas sans leur dire, ça ne peut pas rendre les peuples heureux.
Oui. Merci beaucoup pour nos échanges. Je rappelle votre livre, « La dictature du bien » aux éditions du Verbe Haut. À très bientôt, Jean-Frédéric, et merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous.
Bonne semaine, chers auditeurs, et à dimanche prochain à 17h sur Radio Courtoisie.